dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer cette émission par exprimer une solidarité avec un cheminot qui est licencié en fait par le ministère de l'Intérieur avec la complicité de la SNCF. Alors je vais vous détailler son affaire qui débute le 30 juillet 2025, donc l'an dernier. Il y a une perquisition qui a lieu à son domicile suite à des photos prises par les forces de l'ordre lors de la manifestation du 1er mai 2025 à Metz. Des torches sont saisies à son domicile. Novembre 25, notre camarade est soumis à une mesure conservatoire lui interdisant de se rendre à son poste de travail. Cette mesure fait suite à une enquête administrative de la police qui retrace ses activités militantes et syndicales et suggère une suspension de son poste. Notre camarade conteste l'enquête et ses conclusions auprès du ministère de l'Intérieur, auprès du tribunal administratif et actuellement devant la cour d'appel. C'est bien l'État qui met au placard ce travailleur pour ses opinions politiques. Le 11 février 26, il y a peu de temps donc, le camarade passe en procès devant le procureur de la République au motif de détention, utilisation et recel d'engins explosifs. Précisons que cette audience ne concerne pas le cadre professionnel. Condamnation, 5 ans de prison, avec sursis, heureusement, et 200 euros d'amende. L'infraction n'est pas inscrite au casier judiciaire. À ce stade, les poursuites pour détention, utilisation et recel d'engins explosifs sont closes. Mais c'est pas fini. Le 10 avril 26, donc le mois dernier, alors que l'employeur ne formule aucun reproche concernant le travail de notre camarade et que la démarche juridique suit son cours, la SNCF lui adresse une lettre de licenciement en outrepassant les procédures habituelles et le droit du travail. À l'heure où la procédure est en appel et sans qu'aucune décision ne soit rendue, la SNCF choisit d'aller dans le sens du ministère de l'Intérieur qui décide de l'incompatibilité entre son poste de travail et ses activités militantes. Comment ne pas voir la pression politique exercée par le ministère de l'Intérieur pour imposer ses décisions à une entreprise, la SNCF. Le 6 mai, donc voici quelques jours, il y a eu un premier rassemblement de soutien à l'appel de Sulrail, qui a eu lieu à la gare de triage de Wapi, c'est à côté de Metz, et qui a rassemblé quand même plus de 120 personnes en solidarité.
C'est assez incroyable d'être... Alors, qu'est-ce qui... Bon, on n'a pas le détail, mais qu'est-ce qui justifie le licenciement de la part de la SNCF? Est-ce que c'est la condamnation? Et alors, à ce moment-là... On va apprendre qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge pour être à la SNCF, d'autant plus qu'il y a une procédure d'appel. Donc, oui, on revient normalement
au niveau
à zéro. Ou est-ce que c'est, comme tu dis, une pression du ministère de l'Intérieur? Alors, là, le motif invoqué au départ, ça serait l'utilisation de torches, donc d'alerte de fumigène en manifestation.
Oui.
Ce qui relève de la tradition française, hein, quand même.
Au 1er mai, en plus.
Au 1er mai, surtout quand on est cheminot, quoi. Vraiment, c'est une attaque contre le patrimoine national, là. C'est même pas une attaque politique, c'est un attentat à la culture, quoi. Donc, il est clair que, visiblement, il était dans le viseur, puisque, en plus, les flics prennent des photos.
Oui.
Et s'en servent après. Ils doivent licencier l'ensemble des cheminots qui utilisent ce type de symbole ou de torche dans les manifestations, il risque de plus rester beaucoup de monde à la SNCF, quoi. Bon, là, on a une alliance particulièrement étroite entre un organe de répression et puis un deuxième organe de répression, la hiérarchie de l'entreprise, quoi. Mais je trouve que c'est énorme, 50 prisons avec sursis pour 200 euros d'amende pour utilisation. Enfin, il y a un contexte quand même, quoi. Vraiment, je sais pas, on n'a pas le détail du procès, on n'a pas le détail. Un procureur qui requiert 50 prisons avec sursis pour utilisation d'une torche fumigène par un cheminot en manifestation. Il est bon, le procureur, là.
Ça, c'est la procureure.
Ouais,
c'est
la procureure. Faudrait voir, quoi. Vraiment, faudrait avoir les détails. On va suivre.
Ensuite, l'affaire.
On va suivre l'affaire. On va voir ce qu'en pensent ici nos camarades cheminots. Je pense que ce serait l'occasion aussi de revenir sur la politique de la SNCF. Visiblement, ça met plus d'énergie, là-dedans que sur d'autres biais dans l'organisation des transports, hein. Ça c'est clair, hein. Bon, voilà.
Alors cette nouvelle que je vous ai lue nous a été envoyée par les relations extérieures de la Fédération anarchiste.
Ah bon. Ben oui, c'est un anarchiste. Ah, bon, d'accord, c'est bon, je retire tout ce que j'ai dit. c'est plus déjà un anarchiste qui travaille, c'est déjà très étrange. Donc bon, effectivement. Au vu de la menace que représente la fédération anarchiste en particulier et l'ultra-gauche en général, on comprend mieux la volonté des organes de répression de se débarrasser ou de les mettre de côté.
Donc on suit l'affaire, on vous tient le recours.
Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme bonne nouvelle, hein, avant que...
Ah, je n'ai pas de très bonne nouvelle, c'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, c'est quand même un truc que j'ai découvert. Je me doutais que ça existait encore. Ça me rappelait les années 82, je crois, les protocoles armée-école. Rappelez-vous, c'était la gauche avait gagné en 81. Et en 82, ça y est, le ministère de c'est pas l'intérieur, à cette époque-là, c'était de la Défense et de l'Éducation nationale, signé un protocole d'accord armée-école. Ça a été... Il y en a eu un autre, plus loin, et ça continuait. Ça ne marchait pas trop. Hein. C'était ponctuel. Mais depuis qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, depuis qu'il y a ces menaces de guerre un peu partout dans le monde, et qu'il y a en plus la guerre au Moyen-Orient maintenant, c'est sûr que ça prend une ampleur assez indiscutable. C'est ainsi que, je ne savais pas ça par contre, il y a des classes de défense et de sécurité globale qui ont été créées en 2005. Ça a végété jusqu'en 2016, puisqu'en 10 ans, il y avait 160 classes sur une durée d'un an qui faisait ce protocole. Alors, c'est quoi exactement? Je vais vous dire, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement... c'est un dispositif un peu la même chose qu'en 1982, sauf que ça prend de l'ampleur, puisque en 2016, il y avait 160 classes, et en 2000, pendant l'année scolaire actuelle, là, il y en a quand même 1200 classes qui fonctionnent comme ça, pour 32 000 élèves quand même. 32 000 élèves, c'est quand même assez important. Bon, alors, c'est un projet pédagogique et éducatif, interdisciplinaire et pluriannuel, en lien avec la défense, donc avec l'armée, mené à l'initiative d'un établissement scolaire en partenariat avec une entité du ministre des Armées qui est la marraine. Il consiste en des points de rencontre et d'échange entre les élèves et les militaires repartis tout au long de l'année. Voilà ce que dit le document. En fait, comme on l'a déjà peut-être dit ici, je ne sais pas, mais il y a eu des scandales qui ont été déclarés. Entre autres, par exemple, il y avait le 6 novembre 2025, il y a peu de temps donc, un rallye citoyen. C'était une journée de découverte des métiers en uniforme qui était organisée à destination de la classe défense et sécurité globale du lycée Michelet à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Le stand des surveillants de prison de Fresnes proposait aux élèves un atelier « Vie ma vie » de détenus. D'un côté, il y avait une équipe de jeunes qui vont enfiler le matériel de protection des surveillants de prison. De l'autre, une autre équipe de jeunes toujours qui vont jouer le rôle de détenus. Les détenus sont invités à tester la solidarité de ce matériel qui protège les surveillants de prison en donnant des coups de matraque sur la première équipe. Les faux détenus récalcitrants sont ensuite plaqués au sol par les vrais agents de l'administration pénitentiaire. L'objectif pédagogique de l'activité, faire comprendre à ces adolescents qu'il est vain de se révolter contre les forces de l'ordre. Voilà. C'était... Ça craint quand même, c'est moins qu'on puisse dire. Hein, bon. Ensuite, il y en a eu d'autres, des trucs de ce type que je viens vous décrire. D'exemple, il y a eu le fait que certains parents ne sont pas d'accord par rapport au fait qu'on utilise leur môme pour ce genre de choses. Macron est derrière. C'est un truc qui lui tient à cœur. En fait, ces classes de CSDG, je vous rappelle ce que c'est, ces classes de sécurité et défense globale, qui changeront de nom bientôt, sont à la tête de pont d'un millefeuille de dispositifs censés resserrer les liens entre l'armée et l'éducation nationale, présentés de manière synthétique dans « Acculturer la jeunesse à l'esprit de défense », un petit livret kaki qui a été publié en 2025. À signaler que ce petit livret était financé par un certain, alors je ne me rappelle plus de ce nom, ce mec de ce facho de service de droite là, qui Sterrin.
Ah oui.
Était financé par Sterrin. Bon, alors, bon, que dire aussi? Il y a le fait que, en fait, c'est clair, l'objectif est de mobiliser les gamins pour faire en sorte que si on les appelle à faire la guerre, il y a la même chose en Allemagne, eh bien qu'ils y vont. La Feuer au physique en 1914, ils font tout pour que effectivement il y ait une mobilisation pour défendre nos valeurs. Hein. C'est pas n'importe lesquelles. Et voilà. Alors il y a des cérémonies de levée de couleurs en chantant la Marseillaise le matin. Il y a des ateliers de tir sportif au laser pour rester dans le thème. Et puis, il y a les élèves qui déjeunent avec une ration du soldat à midi. Hein, voilà. L'armée se donne donc plus la peine encore d'attirer les élèves des classes professionnelles. Et oui, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des classes. Je vous disais tout à l'heure, 1200 classes. Mais ces 1200 classes, ce n'est pas les bourgeois qui sont dedans. Ce n'est pas les écoles privées. Ce n'est pas les écoles publiques qui sont dans le centre-ville. C'est surtout des gens qui sont dans les UP, qui sont dans les dispositifs de classe difficiles. Et c'est aussi dans les trucs ruraux, où il y a un certain désert, où il y a peu d'élèves. Eh bien voilà, ces classes en question, les CSDG, se retrouvent là-dedans. Alors, c'est... L'armée, en fait, se donne plus la peine encore pour attirer les élèves des classes professionnelles aussi. Des bacs à coloration multiples, marines, sont proposés par la Marine nationale dans plus de 100 lycées. Tandis que l'armée de terre a créé des périodes militaires de perfectionnement spécialisées au sein de ses unités, alignées sur les périodes de formation en milieu professionnel, obligatoires pour les élèves, leur assurant l'hébergement et leur fournissant nourriture et habillement. L'ambition est de garantir des flux constants et pérennes entre les établissements scolaires et les unités opérationnelles de l'armée de terre, proposant des filières correspondant aux filières d'enseignement professionnel. Bon, voilà, alors c'est clair qu'on nous prépare à la guerre, c'est moi que l'on puisse dire.
Eh bien, formidable. Hein. Franchement, ça donne envie de retourner à l'école, hein, c'est clair. Mais bon, voilà. Bon, écoute, aujourd'hui, on n'avait pas forcément de thématique particulière à vous proposer. On verra si on a le temps et on écoutera dans la deuxième partie de notre émission un petit son sur la logistique, puisque c'est une thématique, un secteur dans l'emploi et de l'exploitation sur lequel on aime bien revenir régulièrement, puisque pour nous, il est extrêmement important dans son volume. D'une part, vu le nombre de personnes qu'il emploie, et puis d'autre part, dans sa fonction à l'intérieur du capitalisme, hein, ce capitalisme de flux. Donc régulièrement, on vous propose soit des analyses là-dessus, soit des témoignages sur les luttes qui s'y déroulent. Et on aura l'occasion dans la dernière demi-heure d'entendre des travailleurs de la logistique de Gennevilliers, d'un entrepôt GE10, qui ont... participer à une grève et qui témoignent de leur quotidien de l'exploitation. Je crois que c'est, enfin en tous les cas, c'est très important de mettre en avant ce type de parole, puisque c'est évidemment des choses qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu sur les ondes mainstream. Alors autre chose que vous avez peu ou pas entendu, c'est normal puisque c'est la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est long, putain. Waouh. Qu'est-ce que c'est long, un an quand même. Et donc c'est l'occasion pour nous aussi de faire des bilans. Alors non pas des bilans à la petite semaine en disant c'était bien et c'était pas bien, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 12 ans, de ces 10 ans, de ces 12 ans même, puisque si on ajoute sa position au ministère de l'économie et même encore avant sa position au secrétariat général de l'Élysée, on a quand même eu l'occasion de distinguer un avant et un après, et voir de mutations profondes à l'intérieur de la société et de l'organisation de l'exploitation, donc du capitalisme. Alors il y a quelques semaines, on vous parlait de Flixbus et de Blablabus pour vous montrer comment une dérégulation d'un marché avait pu aboutir à la situation d'un monopole et à la transformation des conditions d'exploitation et en même temps du rapport à la mobilité. Donc comment, en tant que bons matérialistes que nous sommes, c'est véritablement les rapports de production et les rapports d'exploitation qui conditionnent, qui déterminent la manière dont on vit. Alors non pas qui les programme, hein, c'est pas un ordinateur, mais en tous les cas qui modèle aussi la manière dont on va avoir des rapports entre nous et des rapports à notre espace. Alors il y a un deuxième point qui m'a paru intéressant à mettre en avant sur ce bilan, c'est de parler d'une entreprise que vous ne connaissez pas, donc assez peu connue du grand public, qui s'appelle Atos. Qui est un ancien champion du numérique et de l'informatique, et qui est une entreprise extrêmement importante dans la politique industrielle et informatique de l'État. On parle de souveraineté industrielle. Et qui démontre l'incompétence notoire de ces gens qui nous dirigent, quand il s'agit d'avoir des perspectives qui servent l'intérêt général et avoir des ambitions qui permettent à chacun et à chacune d'améliorer son quotidien et de se projeter vers l'avenir, mais qui ont des compétences extrêmement fortes quand il s'agit de se servir et de faire valoir leurs intérêts personnels ou celui de leurs copains. Alors Atos, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qu'on ne connaît pas. Enfin, peut-être, hein, si votre père il bosse chez Atos, vous allez me dire, mais si, bien sûr. Mais, bon, et c'est une entreprise qui, depuis 4 ans maintenant, est en train de se péter la gueule et va certainement finir au fond du trou. C'est quand même une entreprise qui embauchait 100 000 personnes dans le monde et 11 000 en France. Et c'est une entreprise qui gère notamment tous les services informatiques. Alors, on parle... Je ne vais pas entrer trop dans des détails techniques pour pas vous saouler, hein, mais on parle d'afforance informatique, c'est-à-dire qu'elle prend des services aux entreprises, elle rend des services informatiques aux entreprises, elle gère des logiciels et elle s'occupe aussi de la gestion et du stockage des données. Ce qu'on appelle dans un super bon anglais le cloud, le nuage. Donc toutes ces données qui sont hébergées sur des serveurs. Et c'est pas n'importe quoi, puisque Atos gère à la fois le service de la carte vitale, donc la gestion des données et du réseau de la carte vitale, le réseau de France Connect, donc tout ce qui permet la gestion pour les gens de se connecter sur les services officiels de l'État, des services pour la SNCF, mais aussi et surtout les supercalculateurs qui servent à la dissuasion nucléaire, puisque c'est Atos qui entretient et qui héberge les supercalculateurs qui servent à faire les modèles de tests de bombes nucléaires. En effet, depuis normalement 25 ans, les essais nucléaires en réel ont été arrêtés et désormais ça se passe de manière informatique et simulée, mais pour ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de matos. Et donc, Atos, c'était une entreprise qui cartonnait à fond, puisque en 1997, lorsqu'elle est créée, elle a donc ce marché énorme, ces marchés énormes, qui lui permettent d'être vraiment un géant dans le secteur. Et Atos, donc, en raison de ses compétences particulières, a une petite particularité. Pour des compétences particulières, c'est normal. C'est que à l'intérieur de son conseil d'administration, on trouve une grande porosité entre le politique et évidemment le privé. En gros, va y avoir de nombreux hommes politiques qui ont occupé des fonctions importantes au sommet de l'État qui vont se retrouver dans ce conseil d'administration. Alors, en l'occurrence, il va y avoir un double prétexte à ça. C'est évidemment la compétence et la nécessité pour l'État de conserver un œil sur ce qu'il fait, mais aussi et surtout de recaser des gens quand c'est nécessaire. Titre d'exemple très simple, Édouard Philippe a été membre du conseil d'administration pendant 5 ans d'Atos. Alors, c'est pas du bénévolat, hein, puisque quand on siège dans un conseil d'administration, on touche des, ce qu'on appelle des jetons de présence. Et en l'occurrence, pour Édouard Philippe, c'est 100 000 euros par an. Net. En dehors de toute fiscalité. Et on a aussi vu Atos recueillir lorsqu'il a été éjecté de ses anciennes responsabilités. Thierry Breton, qui a été le président directeur général d'Atos de 2009 à 2019, avant de monter à la Commission européenne, en tant que chargé du numérique et du commerce extérieur. Et puis, une fois qu'il a été débarqué ces derniers mois, revenir sur nos antennes pour nous expliquer c'était quoi la vie, ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait surtout pas faire. Et alors, au cours de ces 10 ans de gouvernance chez Atos, Thierry Breton va se distinguer par je te donne un autre exemple, depuis 2001, Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, et à ce titre donc chargé de la cybersécurité des JO de Paris, quoi. Donc au cours de ces 10 années à Atos, il y a eu une espèce de boulimie d'acquisition stratégique, puisque alors Atos a racheté Bull dans les années 90, mais là ça va être l'industriel allemand Siemens-Sinté, la partie informatique, Sintel, donc ça c'est la partie informatique d'un petit bout de Microsoft, etc., etc. Et en fait, ces choix d'acquisition frénétique vont créer une dette énorme chez Atos, qui va voir ses comptes invalidés à plusieurs reprises, qui va faire appel à des cabinets de consulting pour pouvoir tenter de redresser la situation, cabinets de consulting qui vont évidemment se servir largement comme il faut. Devant la capacité produire des comptes sincères, on appelle ça en comptabilité une insincérité des comptes, eh ben Atos va voir son cours de bourse s'effondrer. Ouais. Et donc petit à petit devenir potentiellement la proie de autres grands fauves du secteur. Et le dernier en date, celui qui est arrivé l'année dernière, c'est Daniel Kretinsky. Donc Daniel Kretinsky, c'est un oligarque hongrois qui a fait fortune dans le gaz avec des montages un peu foireux et des allers-retours très très suspects, comme c'est parfois le cas dans ces contrées où l'énergie, le politique et l'État et la mafia ont été extrêmement bien imbriqués. Un jour, on vous fera une émission sur Gazprom et l'historique de Gazprom à l'intérieur de l'État russe. Mais bon, donc là, c'est Kretinsky qui est arrivé et qui a essayé de se rendre maître d'Atos. Alors évidemment, comme vous le savez, on a eu un ministre de l'économie qui a été exceptionnel au cours de ces 10 dernières années, Bruno Le Maire, qui non seulement a été vraiment en grande capacité de gérer les deniers et les comptes de l'État, mais qui a très bien vu venir le cassage de gueule de ce fleuron, puisque en 2023, il disait encore suivre le dossier de très très près, et se réserver le droit d'intervenir. Alors le résultat aujourd'hui, c'est que c'est la panique, parce que on s'aperçoit que des secteurs stratégiques, comme donc je vous l'ai dit, les données, donc le cloud de la sécurité sociale, de la SNCF et donc aussi des supercalculateurs pourraient être menacés. Et le 31 mars, on a appris dans la bouche de Roland Lescure, le ministre de l'économie actuel, que l'État allait racheter la partie qu'on s'appelle Evidence, donc c'est la partie des supercalculateurs, pour la modique somme de 720 millions d'euros, et donc devenir l'actionnaire majoritaire de cette boîte, de cette filiale, pour pouvoir la sécurité. Comme quoi, des fois, il y a de l'argent, mais là, on va vous dire qu'évidemment, c'est l'intérêt national qui prime. Alors bon, Il y a vraiment au cours de ces 10 dernières années une politique à la fois industrielle, puisque il n'a pas été en capacité, Thierry Breton, de voir là où ça se passait, donc de se ruer sur des marchés qui ne rapportaient rien, évidemment, étaient déjà complètement bouché, ne permettait pas de développer une confiance vis-à-vis des investisseurs, mais plutôt de monter et de créer des espèces de montages financiers, de supputations de signal, etc., etc. Par contre, il y a un petit truc qui est intéressant. C'est que pour Thierry Breton, c'est 10 ans, c'est 45 millions d'euros de rémunération. Et c'est entre 1,8 et 2,4 milliards d'euros distribués aux actionnaires jusqu'en 2019 et jusqu'à son départ. Donc voilà à quoi a servi une entreprise qui gère des marchés publics ou qui a du parapublic de manière extrêmement importante, faire cracher du cash et évidemment à la fin et ben c'est l'État, donc nous qui passons à la caisse. Et alors là c'est vraiment le point de vue comptable et on va dire contribuable qui parle, mais si on était dans une optique de gestion de l'État, hein, de l'État stratège, de l'État industriel, de l'État programmateur, on verra tout de suite là qu'il n'y a aucune politique industrielle, aucune capacité à anticiper l'avenir et aucun talent dans des questions qui sont des questions d'actualité industrielle et de souveraineté numérique qui sont vraiment prégnantes aujourd'hui et qui l'étaient déjà il y a quelques années. Rappelons cette citation, ce libelle de notre cher président: soyez fiers d'être des amateurs. Il est vrai que tous les jours il nous le démontre, mais ça pourrait être drôle si c'était pas tragique, effectivement, puisque à la fin c'est nous qui passons à la caisse. Alors il y a quand même un petit soupçon dans cette histoire, puisque dans ces boîtes de informatique et gestion data données, le premier, donc le deuxième c'est Atos hein, en France, le premier c'est Capgemini. Et si on s'en souvient bien, Capgemini, c'est très intéressant parce que, alors Capgemini, évidemment, vous en avez entendu parler il y a quelques mois puisque c'est eux qui gèrent les données pour ICE, donc la police de Trump, qui a fourni des applications et des logiciels pour faire de la chasse d'êtres humains. C'est aussi Capgemini qui sous-traite en partie certains logiciels et certaines données de l'armée israélienne, mais bon, c'est pas le principal. Mais ce qui est plus intéressant pour nous à Capgemini, c'est qu'une partie de la direction de Capgemini est très très liée à Emmanuel Macron, puisque son directeur par intérim de 2007 à 2019, c'est Philippe Grandjean. Et Philippe Grandjean, c'est quelqu'un qui est intéressant puisque c'est vraiment quelqu'un qui a été à la naissance de la Macronie dans la partie PS. En effet, Philippe Grandjean, il est conseiller, collaborateur de différentes personnalités au sein du Parti Socialiste, donc Hollande, etc., et de Nicole Notta à la CFDT. Et il est membre du premier cercle d'Emmanuel Macron lorsque lui-ci va être ministre de l'économie. À ce titre, il sera membre du bureau exécutif de En Marche et délégué général, donc directeur de En Marche après la démission de Christophe Castaner. Donc c'est lui qui va rédiger les statuts de La République En Marche, de LREM. Il y est depuis la naissance et tout en étant évidemment membre de la direction de Capgemini. Et on voit bien justement là que finalement, à l'intérieur du macronisme, il y a eu ces fractions de classe qui ont assez rapidement su se positionner et avoir pu orienter certaines politiques publiques. De là à dire que la chute d'Atos favorise Capgemini, je ne verserai pas dans cette version complotiste parce que je n'ai pas d'éléments, mais en tous les cas, il est sûr que ça fait le malheur des uns, fait le bonheur des autres, et que certains ont retiré ces 10 ans de Macron vraiment un gros, gros pactole. Voilà, je me tais. On va se faire une pause musicale et puis je présenterai après le son qu'on va écouter. Je ne sais pas si on aura l'occasion de l'écouter jusqu'au bout, mais en tous les cas, nous, on va prendre notre respiration.
To the station with a suitcase in the hands, and I followed her up to the station with a suitcase. Hands. it's hard to tell, it's hard to tell. Looked in the eye.
Ben voilà, tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, les Rolling Stones en live en 72, hein, avec Mick Taylor évidemment, parce que après c'est plus intéressant, quoi. Voilà. On va s'écouter une vingtaine de minutes d'un petit son qu'on a récupéré par-ci par-là sur les travailleurs de la logistique de Géodis, en particulier à Gennevilliers, mais d'une manière générale. Qui poursuit notre réflexion sur la logistique, puisque faut-il encore le rappeler, la logistique emploie 1,7 million de personnes entre le transport, la gestion, le stockage, etc. Ce qui représente 22% des ouvriers, ou en tous les cas ceux qui sont labellisés sous ce terme-là dans la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Alors, on y va tout de suite comme ça, ça va pas. Et puis, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, c'est pas grave, on aura l'occasion de revenir encore et encore et encore sur cette thématique. Allons-y, on va essayer, Daddy Camille. Alors, du coup, je vais continuer à parler jusqu'à temps que ça parte et puis je me tairai quand ça partira. C'est pas grave. Donc, la logistique, c'est effectivement un secteur super marcelé, fragmenté entre des sous-traitants, des statuts précaires, des hiérarchies. Et c'est surtout quelque chose qui est invisibilisé, puisque ça se passe à l'intérieur des entrepôts. Et nous, on voit pas vraiment le quotidien des personnes qui préparent notre colis en ligne. Alors, nous avons reçu du renfort. On va voir cette fois-ci, ça va partir. Allons-y. Non, toujours pas. Ah, là, c'est le matériel. Pour le coup, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de matériel, comme quoi il faut jamais croire en la technologie. Et on a eu l'occasion de venir. Voilà, ça y est, c'est parti.
Le mot qui me vient pour décrire la logistique, c'est ou frénésie ou folie.
Les gens, ils voient juste le camion qui arrive, qui livre, mais ils ne savent pas tout l'acheminement qu'il y a derrière. Ils ne le voient pas.
La première fois que j'ai passé la porte d'Amazon, je me souviens que j'étais impressionné. Il y avait plein de zones avec des palettes au sol et puis des étagères remplies d'articles. Enfin, ça donnait un petit peu une impression de surabondance, quoi.
Il y a des convoyeurs, il y a des colis, il y a des cartons, il y a des trucs automatisés, il y a les collègues qui se chambrent un peu, genre de brouhaha, mais on essaie d'avoir une bonne ambiance.
Il y a un bruit de fond très fort, et c'est le bruit du convoyeur, cette grosse machine sur laquelle circulent les tapis et qui est assez épuisant au quotidien.
C'est des gestes répétitifs, donc à chaque fois, voilà, faut envoyer, quoi.
C'est très 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 physique et le chargement ou le déchargement, il est très 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 dur.
C'est un secteur, la logistique, qui a beaucoup transformé les mondes ouvriers en France. C'est proche d'un million d'ouvriers aujourd'hui dans la logistique. Donc si on met transport et logistique, c'est plus 1,7 million, 1,8 million d'ouvriers dans ce secteur. Et un chiffre qui est facile à retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un quart des ouvriers en France, le transport et la logistique, alors que c'était un peu plus de 10% dans les années 80. Donc il y a vraiment de plus en plus d'ouvriers du transport et de la logistique dans le monde ouvrier.
On est à l'entrée du site d'Amazon Montélimar. Donc voilà, c'est là l'entrée principale pour les salariés, puisqu'il y a une entrée pour les camions qui se situe un peu plus loin. Bah, c'est un entrepôt, hein, c'est gris, c'est pas très joli. Mais voilà, c'est un grand entrepôt avec plusieurs portes au niveau des quais pour que les camions puissent se mettre à quai. C'est hyper sécurisé, quoi. C'est sans autorisation. C'est impossible de rentrer, il y a des portiques de toute façon, tout est fait pour que ce soit verrouillé, quoi. Ah bah parce que Amazon a une relation avec les médias qui est plutôt complexe. Si ça va dans leur sens, c'est cool, mais ils supportent pas que des journalistes puissent investiguer sur les conditions de travail. Après moi, vu que je suis un salarié protégé du fait que j'ai été représentant du personnel, donc non, je suis moins exposé. Mais un salarié qui témoigne dans la presse à son nom propre et à visage découvert, potentiellement, il pourrait être licencié, quoi. Je m'appelle Robin Collignon, j'ai 36 ans et je suis préparateur de commandes, enfin agent d'exploitation logistique à Amazon Montélimar.
Alors moi, je m'appelle Abib Latrèche, j'ai 47 ans et je travaille dans l'entreprise Amazon Nova Planck sur le site de Lille 1, à côté de Douai, dans une petite ville du Nord. L'entrepôt, on va dire en termes de superficie, se rapproche à peu près à 10 terrains de foot. Si je dis pas de bêtises, on est le deuxième plus gros de France.
Ma première expérience à Amazon, c'était en 2011. Je sortais de mon BTS, donc je venais de finir mes études. Voilà, j'avais besoin de trouver un travail rapidement. J'ai pris ça un petit peu par défaut, parce qu'à Montélimar, c'était un des seuls endroits où on pouvait trouver du travail facilement. Ici, à part Amazon et les grandes surfaces et puis tout ce qui est fast-food, il n'y a pas énormément de travail pour les jeunes.
Dans le bassin minier et dans la région du Nord, on a beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Et lorsque Amazon s'est présenté à moi en tant qu'intérimaire, j'ai travaillé et ensuite ils m'ont embauché.
La première fois que j'ai passé la porte d'Amazon, je me souviens que j'étais assez impressionné. J'avais déjà travaillé dans des entrepôts, mais plus en usine. Enfin, ça donnait un petit peu une impression de surabondance, quoi. Qui me vient pour décrire la logistique, c'est ou frénésie ou folie. Tout le temps à flux tendu, rapide. C'est une surabondance d'articles, de colis, etc. Enfin, c'est vrai que le e-commerce, c'est un modèle qui est quand même assez fou, quoi. Et moi, j'ai pu le ressentir un peu au début, quand je voyais des gens qui s'activaient partout et tout. J'étais là, je me disais, waouh, qu'est-ce que je fais là, quoi. Donc, c'est pas simple, ouais.
Le matin, en prise de poste, on a toujours un briefing. On nous dit, il y a tant d'unités, il va falloir envoyer les colis, et on nous le précise. Et il y a une forme de pression insidieuse. Et on nous explique que, il faut envoyer, quoi. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais en vrai, oui. On sait pertinemment qu'il y a un quota, qu'il y a des quotas, des performances ou des productions. Peu importe comment vous le dites. Mais il y en a. Officiellement, non. Officieusement, oui. Après, il y a les échauffements. Et donc, on passe notre badge pour l'heure. Et après, on passe sur un autre petit cadran qui nous dit où est-ce qu'on va travailler. Et par exemple, moi, le matin, je commence souvent au pack. Je passe mon badge et là, on m'a dit, tu vas aller au pack. Alors, packer, c'est lorsqu'on assemble les cartons dans des colis. Donc, on prend les articles, on les met dans les colis. Picker, c'est lorsqu'on est dans les grandes allées qu'on voit dans les photos où on a un chariot où on prélève les articles.
Quand je suis en picking, c'est vrai qu'on peut marcher quand même beaucoup. Si on fait une journée entière de picking, alors apparemment on marcherait à peu près 15 km en moyenne.
C'est vrai que c'est tout le temps monotone, en fait. Tout le temps la même chose. Des gestes répétitifs. Donc à chaque fois, faut envoyer, quoi. La fin de journée, on sent beaucoup la douleur physique. 19h30, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Chez Amazon, les troubles musculo-squelettiques, c'est pas une légende, ça existe vraiment.
Il y a pas mal de salariés qui finissent en inaptitude. Ça a des effets. Sur le long terme, hein, parce que au début on supporte, mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs années, on sent déjà des problématiques physiques qui peuvent arriver. C'est vrai que moi j'ai pas mal de soucis de douleurs au niveau des lombaires et au niveau du bassin. J'ai eu des tendinites au poignet. Ça, je pense que c'était plus lié au scanner dans toute la partie préparation de commande.
Au-delà de l'aspect physique, il y a aussi beaucoup l'aspect psychologique, parce qu'on a mal, on sent mal, quoi. Donc on se retrouve beaucoup au kiné. Moi j'ai un abonnement chez mon kinésithérapeute, il me connaît. Ils ont mis un ostéopathe attitré dans l'entreprise, où on peut le voir. C'est payé par l'entreprise, mais déjà ça c'est pas normal. Le fait de voir un ostéopathe, parce que on est cassé de partout, et puis à un moment donné, arrivé à un certain âge, on n'arrive plus à suivre, quoi.
Il y a beaucoup d'accidents du travail à Amazon. Sauf que à 100% des cas, ils sont toujours contestés par l'employeur pour telle ou telle raison. L'employeur va dire que c'est le salarié qui a pas respecté les consignes de sécurité, etc., ou qu'il avait déjà mal en arrivant. Enfin bon, ils vont trouver tout un tas d'excuses pour que les accidents du travail soient pas reconnus.
La safety chez Amazon, c'est savoir travailler de façon sécurisée dans un environnement sécurisé. Ça va également jusqu'à l'hygiène, l'ergonomie des outils et des postes de travail. C'est parti, safety tip.
C'est la règle numéro 1. On a les conditions de sécurité qui sont suffisantes et derrière, on peut faire du bon travail et aller livrer le client.
C'est aussi très rassurant pour le directeur de site que je suis de savoir qu'il y a une organisation safety qui est stricte et appliquée au quotidien par chacun. Ça permet d'être sûr que nos collaborateurs sont en sécurité à chaque instant.
En vrai, sur le terrain, ça c'est, je suis désolé de rire, mais voilà, réellement, c'est faux, c'est complètement fou. C'est safety first quand ils veulent. Quand il y a les unités qui tombent, que là, il est bon, mal combat, là, il faut envoyer les colis le plus vite possible, c'est safety last, quoi, c'est en dernier.
D'un côté, ils vont mettre la pression sur des règles de sécurité qui peuvent parfois être absurdes, comme tenir la rampe en montant l'escalier. Et d'un autre côté, en fait, on travaille pendant des heures dans un environnement qui n'est pas adapté, avec des postes qui ne sont pas toujours ergonomiques, avec un espace de travail qui est pas fait pour travailler correctement, quoi, pour faire des bons mouvements, et avec des cadences qui forcément, sur le long terme, vont avoir des conséquences physiques sur les gens. Quand on travaille dans l'urgence, qu'il y a un manager qui met la pression pour que ça aille plus vite, les gens ils respectent pas les gestes et postures. Et après, s'ils se font mal, la direction va dire « Ah, c'est sa faute, il a pas respecté les gestes et postures ». Ils mettent des affichages un peu partout en disant « Pensez à avoir une bonne hygiène de vie, à bien dormir correctement ». Mais bon, à un moment donné, en fait, quand on travaille à des horaires décalés, qu'on change tout le temps son rythme de sommeil, tous les médecins disent qu'on peut pas avoir un sommeil correct, quoi, en fait. Le fait d'avoir des horaires alternés, ça m'a causé des troubles du sommeil. Donc de faire une semaine matin où je me lève à 5h et une semaine d'après-midi où je finis à 21h, ça fait partie de toute cette hypocrisie de à la fois dire aux gens de prendre soin de leur santé, mais en même temps les conditions de travail et le contexte de travail ne le permettent pas. Donc en fait, c'est une façon de culpabiliser les salariés, de renvoyer en fait la responsabilité sur eux, alors que c'est clairement l'employeur qui est responsable des conditions de travail et de la dégradation de la santé, quoi.
Bienvenue à l'usine, ce matin c'est 6h pile, ambiance morbide, j'espère que t'es solide. Tout le monde a son truc pour éviter le suicide. Pour les jeunes c'est la weed, pour les vieux c'est la bibine. J'ai le schlag swag, noir fluo, stylé chaussures de sécu et trois quarts fluo. La vie nous a carotte mais on garde haut le poireau. On est une bande de potes au fin fond d'un entrepôt.
Les entrepôts, à la fois, ils se ressemblent et ils se ressemblent pas. Donc, il y a quand même des principes qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, c'est un secteur qui a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Donc, un entrepôt, c'est beaucoup d'ouvriers. Après, il y a certaines distinctions dans les sous-secteurs qui sont importantes. Il y a des secteurs où les colis sont beaucoup plus lourds. Par exemple, la boisson, c'est des colis très lourds. Il y a des secteurs où les colis sont très légers, la pharmaceutique. Donc, par exemple, dans la pharmaceutique, il va y avoir des mouvements beaucoup plus rapides des objets et beaucoup plus de gestes répétitifs dans le travail au final et moins de charges lourdes. Ensuite, il y a aussi des sous-secteurs comme le e-commerce et la livraison des colis qui ont certaines spécificités. Il y a plus de sous-traitance, il y a plus d'intérim, il y a plus de nouvelles technologies et de traçabilité aussi dans le e-commerce. Donc à chaque fois, les métiers vont être un peu différents, mais avec des grandes caractéristiques communes. Il faut vraiment souligner le fait que le discours sur l'automatisation des entrepôts, il est très exagéré. Ça fait des années qu'on nous dit que bientôt les entrepôts seront automatisés, que c'est des métiers qui vont disparaître, alors qu'en fait les chiffres de l'emploi ne cessent de croître. Alors bien sûr, il y a des gains de productivité, mais il y a aussi de plus en plus de besoins en logistique. Donc au final, ça s'équilibre, et donc il y a quand même de plus en plus d'ouvriers dans les entrepôts. Mais même du point de vue de l'automatisation, si on regarde bien les entrepôts aujourd'hui, il y a extrêmement peu de tâches qui sont automatisées, au sens où il y a plus d'humains qui les font. Il y a des tâches qui sont accélérées, avec moins d'humains pour faire la même tâche, mais il y a très très peu d'automatisation. Et plus largement, en fait, cette idée que les métiers pénibles dans la logistique comme ailleurs vont disparaître grâce aux nouvelles technologies, cette idée, elle existe depuis les débuts de la révolution industrielle. Il y a toujours eu des gens pour dire ça et ça n'advient jamais. Donc on peut se dire que peut-être que ça va finir par advenir et qu'il va y avoir une disruption. En général, les gens qui disent ça aiment bien ce mot-là. Mais c'est un pari sur l'avenir qui est extrêmement risqué. Moi, je suis persuadé que ça n'arrivera jamais.
Je m'appelle Taïef Hassan. Je fais comme métier réceptionnaire à Judis.
Je m'appelle Justice Ilombo. Je travaille à Judis, Calberson Île-de-France.
Judis, c'est une filiale de la SNCF. C'est, quand on dit filiale de la SNCF, on dit l'État.
Beaucoup de gens ne connaissent pas Judis et beaucoup de gens ne connaissent pas ce que nous faisons à Judis.
Là, on est 210 salariés. On fait presque 60 000 colis, 80 000 colis par jour.
Il y a des habits, des chaussures, des petits colis, par exemple un petit pli, des plantes, des batteries, des animaux vivants, des cercueils. Tout, on transporte tout, sauf les êtres humains.
On dit souvent que la logistique, c'est l'infrastructure du capitalisme. Avec l'émergence de la logistique comme secteur très puissant à partir des années 80, on va vers une période où la circulation devient une forme de centralité. Elle remplace pas la production, mais il y a une importance stratégique de la circulation. Et qu'est-ce que ça permet? Alors ça permet des choses qu'on connaît, par exemple ça permet de délocaliser, de faire bouger la production dans des pays à bas coût, parce que quand on délocalise, on a besoin de logistique. On va envoyer la production loin, mais la consommation, elle reste chez nous. Donc il faut gérer le transport et le gérer à bas coût et de manière très efficiente. Et pour ça, il y a besoin de logistique. Il y a un exemple qu'on utilise tout le temps et qui est très utile, c'est les smartphones. Un smartphone, aujourd'hui, il est fabriqué dans plein d'endroits différents dans le monde. On a...
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur... Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.